Vous écoutez RTL.
Vous êtes poussé à faire vite, pourquoi? Parce que vous vous dites en permanence, si ma fille est en danger et qu'elle appelle au secours, il faut lui apporter le secours. Donc on ne peut pas s'arrêter. Il faut se battre, continuer à se battre de façon, si elle est vivante et si elle appelle au secours, il faut se dépêcher.
Bonsoir. 11 000 jours et 11 000 nuits que Annie Audoy attend qu'on lui dise ce qui est arrivé à sa fille Marie-Hélène. 30 années se sont écoulées sans qu'aucune de ces journées ne soit occupée par le souvenir du 21 mai 1991. Ce jour-là, Marie-Hélène Audoy, 22 ans, représentante en pharmacie, se volatilisait au volant de sa voiture entre Monaco, l'arrière-pays niçois et la route des Alpes. Pas une trace, rien ne sera retrouvé, ni la voiture, ni la jeune femme. Comme si ce territoire, traversant les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, s'était métamorphosé en une espèce de triangle des Bermudes. La piste criminelle va être immédiatement privilégiée, se concentrant notamment sur un riche promoteur, soupçonné d'enlèvement et d'abus sexuels, puis sur le compagnon de la disparue, investigations tardives qui n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, le dossier Marie-Hélène Audoy est officiellement clos par la justice, même si, malgré le temps écoulé, tout nouveau témoignage pourrait relancer l'affaire. Qui en voulait à Marie-Hélène au point de l'effacer en quelques heures du paysage de la Côte d'Azur? L'enquête a-t-elle épuisé toutes les pistes? Des témoins gardent-ils encore le silence? Ce mardi 21 mai 1991 au matin, le temps est au beau fixe sur la Côte d'Azur. Marie-Hélène Audoy, 22 ans, s'affaire dans l'appartement qu'elle occupe avec son compagnon Steven, un 4 pièces lumineux, résidence du Lido à Cagnes-sur-Mer. La jeune femme, une brune aux yeux verts, vêtue ce jour-là d'une veste noire et d'une jupe culotte noire, boucle sa valise. Elle est représentante en produits pharmaceutiques et s'apprête à faire une longue route. Une tournée des officines qui doit la conduire jusqu'à Monaco, puis Digne-les-Bains, puis Briançon dans les Hautes-Alpes, où elle a prévu de passer la nuit. Marie-Hélène prend ses affaires et sa mallette, dans laquelle se trouvent ses documents professionnels. Elle rejoint sa voiture, un véhicule de type Renault Super 5, couleur blanche. Elle quitte Cagnes-sur-Mer vers 10h20. Une quarantaine de minutes plus tard, elle est à Monaco. Aux alentours de 11h30, elle visite une première pharmacie, un client qu'elle connaît bien. Elle signe un bon de vente. La représentante a ensuite rendez-vous avec un grossiste de la principauté pour lui passer une commande. Vers 14h, elle est de retour à la première pharmacie. Elle discute avec la préparatrice. Elle semble pressée, indique qu'elle n'a pas eu le temps de déjeuner et qu'elle a beaucoup de route à faire. Elle n'attend donc pas le pharmacien et lui laisse un petit mot. « Je repasse la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène. » La jeune femme ne repassera pas. C'est la dernière fois qu'un témoin l'aperçoit. Elle reprend le volant et va disparaître. Mercredi 22 mai, lendemain de la disparition, Steven, le compagnon de Marie-Hélène, prévient les parents de la jeune femme qui habite au Cap d'Antibes que son employeur a téléphoné. Marie-Hélène ne l'a pas appelée alors qu'elle le fait toujours lors de ses missions. Il dit n'avoir aucune nouvelle. L'employeur rappelle le lendemain, il insiste. Les parents de la représentante en pharmacie, Jacques et Annie Audoy, commencent à s'inquiéter. Il n'est pas dans les habitudes de leur fille aînée de garder ainsi le silence. À l'époque, pas de téléphone portable, impossible de la contacter facilement et rapidement. Le couple, qui a deux autres enfants, une fille Muriel et un garçon Jean-Baptiste, est impuissant. Jacques et Annie Audoy ne peuvent s'empêcher de penser à un problème, un accident de la route par exemple, mais rien de tel n'est signalé. Après un week-end sans aucune nouvelle, les parents signalent la disparition au commissariat d'Antibes et à celui de Cagnes-sur-Mer. Marie-Hélène Audoy est majeure. Une simple procédure de recherche dans l'intérêt des familles est alors déclenchée. Les parents de Marie-Hélène vont ratisser inlassablement la région dans l'espoir de retrouver une trace de leur fille. Mais rien ne surgit, aucun signe de la jeune femme et de sa voiture. Rien à voir avec un accident ou une disparition volontaire, cette affaire-là est criminelle. Les parents de Marie-Hélène, rongés par l'incompréhension et l'inquiétude, n'ont pas attendu les recherches officielles pour se mobiliser. Ils ont été effectivement les premiers à refaire le trajet que devait emprunter leur fille entre Cagnes-sur-Mer, Monaco et Briançon. Jacques Audouin, avec des amis militaires, va scruter les bas-côtés de cette route sur 200 km, examinant les fossés et les ravins. Avec des amis, le couple Audouin loue 3 hélicoptères pour survoler cette région sauvage que traverse la route Napoléon. Au fil des semaines, des mois et des années, les plans d'eau vont être examinés. Le canal de la Durance sera sondé à l'aide d'un sonar. En janvier 1998, le lac artificiel de Castillon, en aval du village de Saint-André-les-Alpes, sera exploré au pied d'un tunnel dans l'espoir de voir surgir le véhicule de la disparue. Mais aucune Super 5 blanche dans le coin. Un avis de recherche est placardé dans les magasins, les bureaux de tabac, les mairies de la région, en formant le vœu que quelqu'un reconnaisse le visage de Marie-Hélène. Mais personne alors ne semble l'avoir aperçu, pas plus que sa petite voiture immatriculée dans les Hauts-de-Seine. Moins d'un mois après la disparition, le 13 juin 1991, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte à Grasse, confiée à la juge d'instruction Catherine Rabhi. C'est la police judiciaire de Nice qui est saisie, des enquêteurs qui continuent à superviser des campagnes de fouilles, mais partent surtout à la charge de témoignages. Un premier récit sème alors le trouble, celui d'un gérant d'une sandwicherie de Cagnes-sur-Mer qui certifie avoir servi le mardi 21 mai, jour de la disparition, en début d'après-midi, Marie-Hélène Audouin en compagnie d'une jeune femme blonde. Il est formel. Marie-Hélène, qu'il ne connaissait pas, lui a même dit qu'elle habitait tout près à la résidence du Lido. Témoignage pris au sérieux et capital, puisqu'il change tout. Il signifierait que la disparue est repassée chez elle alors qu'elle aurait dû prendre la route des Hautes-Alpes. Les enquêteurs rencontrent dans la foulée Steven, le compagnon, et perquisitionnent l'appartement. Deux détails les intriguent. Une feuille de papier avec les mensurations de Marie-Hélène et dans la chambre à coucher, les photos d'une jeune femme, un mannequin suédois prénommé Gunella. Steven est entendu. Il explique que Gunella est sa dernière conquête, ce qui a occasionné une dispute au sein de son couple le week-end précédant la disparition. Mais ensuite, tout est rentré dans l'ordre, assure-t-il. Le compagnon ressort libre de cette audition. Les policiers savent que le 21 mai au matin, Marie-Hélène a fait le plein de sa voiture à 8h46, a passé ensuite un long coup de fil de chez elle à 9h51 à sa copine Géraldine. Steven donne lui un autre timing. Il affirme avoir accompagné Marie-Hélène jusqu'à la voiture aux alentours de 9h15. 9h30. La police judiciaire ne va pas en rester là. Elle va s'attacher à suivre une piste tout aussi inquiétante que prometteuse, celle d'un riche homme d'affaires qui a pignon sur rue et qui pourrait droguer des jeunes femmes afin de les abuser sexuellement. 8 mois après la disparition de Marie-Hélène Audouin, les policiers enregistrent la déposition d'une vendeuse d'une boutique de vêtements de Jean Lépin. Celle-ci a reconnu tardivement Marie-Hélène sur une photo. Elle se souvient l'avoir vue le 31 juillet 1991 au soir dans sa boutique. Elle raconte que celle-ci était avec un homme qui l'appelait Marie ou ma petite pute et lui a offert un ensemble rose et kaki payé avec une carte de crédit. La vendeuse était convaincue d'avoir affaire à un souteneur et à sa prostituée. La fille avait l'air droguée et portait une brûlure de cigarette sur la poitrine. Il faut attendre un an, 1993, pour que cet individu soit identifié et interpellé, un certain Claude F., homme de main qui vit de petites combines. Il nie connaître Marie-Hélène Audouin. La juge de Grasse le met toutefois en examen pour séquestration et il est écroué. La carte de crédit utilisée dans la boutique mène, elle, au dénommé Daniel M. Ce promoteur immobilier, alors âgé de 52 ans, est originaire de Berne, en Suisse. Il a fait fortune dans l'import-export de voitures de luxe, d'œuvres d'art, puis la vente de maisons et d'appartements. Il est propriétaire depuis quelques mois d'un studio photo à Nice. Daniel M. fait passer des castings au Carlton, à Cannes, à de jeunes femmes en leur faisant miroiter des carrières d'actrices internationales. Il s'agit en fait, le plus souvent, de les convaincre de faire des photos érotiques et de tourner dans des films pornographiques. La PJ sait encore que le promoteur a fait l'objet par le passé d'une plainte pour viol et enlèvement de mineurs. Une jeune femme, une surfeuse semi-professionnelle, raconte pour sa part avoir fait la connaissance de Daniel M. dans une boîte de nuit, un établissement que fréquentait aussi Marie-Hélène. Elle se serait retrouvée chez le promoteur, la Villa Blanche à Saint-Raphaël. Elle dit avoir été droguée, abusée pendant 3 jours, avant de pouvoir s'enfuir en maillot de bain. Un médecin a constaté la prise de neuroleptiques et de stupéfiants. Le 1er juin 1994, Daniel M. est interpellé dans sa villa, placée en garde à vue. Il reconnaît avoir payé la tenue rose kaki à une fille, mais il ne s'agissait pas de Marie-Hélène. Il ne la connaissait pas. Le prompteur est toutefois mis en examen pour séquestration et écroué, puis poursuivi pour proxénétisme. Daniel M. est soupçonné d'être derrière d'autres disparitions de jeunes femmes sur la Côte d'Azur, celle de Valérie Benaïm en février 93, Valérie Mathieu, novembre 93, et à la même époque, Patricia Lemaire. Daniel M. nie toute implication dans cette disparition. Il sera libéré après 6 mois de détention. Les pistes vont se multiplier dans le dossier Marie-Hélène Audoy, bien souvent alimenté par des témoignages fantaisistes. Les années vont défiler sans qu'une trace de la disparue ne soit détectée. La piste du petit ami va alors ressurgir. En ce mois de juillet 1996, les gendarmes remplacent les policiers pour faire avancer le dossier Marie-Hélène Audoy. La PJ n'a pas démérité, loin de là, mais la juge de grâce espère qu'un œil neuf pourrait permettre d'accélérer les investigations. Jusqu'ici, toutes les pistes possibles se sont heurtées à des impasses. Les témoignages n'ont rien donné. Les parents de la jeune femme en ont pourtant reçu plusieurs et ont toujours espéré que l'un d'eux allait les conduire à Marie-Hélène. Celle-ci aurait été vue en train de se prostituer à Lyon ou à Hambourg, aperçue dans une voiture sur le périphérique parisien, vue avec certitude par des touristes allemands sur la Costa del Sol en Espagne. Annie Audoy, alertée à 14h, sautera immédiatement dans un avion pour l'Espagne pour y être à 2h du matin. La fille aperçue sur place n'était pas Marie-Hélène. Les parents offriront même une récompense de 200 000 francs à l'époque, puis 500 000 francs, le fruit d'un héritage, pour tout renseignement pouvant élucider la disparition. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille souhaitent reprendre point par point les zones d'ombre de la procédure. Ils s'intéressent ainsi de près au compagnon de la disparue, Steven. Au fil de ses dépositions, celui-ci a livré des éléments contradictoires. S'agissant du départ de Marie-Hélène du domicile, il ne donne jamais les mêmes heures. Il admet s'être disputé avec sa compagne sans la moindre violence, alors que de la vaisselle et un cendrier auraient été cassés. Steven décrit une veste beige, alors que Marie-Hélène portait une veste noire, veste retrouvée par sa mère dans l'appartement, ce qui tend à démontrer que Marie-Hélène est bien repassée chez elle. Les messages sur le répondeur de l'appartement ont été, selon lui, effacés par erreur par un ami qui aurait occupé les lieux. Ce fameux ami dément, il va encore apparaître que Steven avait à cette époque une maîtresse, sa patronne à l'agence immobilière, jalouse de Marie-Hélène. Dans un agenda appartenant à cette femme, les enquêteurs découvriront le nom d'un homme incarcéré pour 2 meurtres. Des éléments suffisamment troublants pour entraîner l'interrogatoire de la maîtresse en 1996. Puis les auditions en qualité de témoin assisté de celle-ci et de Steven. Le couple sera même confronté aux parents de Marie-Hélène en 2010. Aucune poursuite ne sera engagée à l'encontre de Steven et de sa maîtresse. Faute d'éléments probants et de l'apparition de nouveaux témoignages, l'enquête sur la disparition de Marie-Hélène Audoy va s'enliser. La justice va alors se décider à clore ce dossier qui sera donc, sauf surprise, un cold case. Au mois de mars 2002, le juge Thierry Laurent, qui avait pris la suite de Catherine Rabhi, songe une première fois à clôturer l'instruction. La famille de Marie-Hélène fait alors tout pour que les investigations et les vérifications se poursuivent. En septembre 2007, une troisième juge de grâce, Caroline Vercamer, prend la décision d'arrêter les recherches. La partie civile demande à la cour d'appel d'Aix de les prolonger. Il est dramatique de laisser une famille dans le flou, de clôturer l'enquête sans savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène, plaide alors maître Sophie Jonquet. Au mois de février 2013, le dossier se referme sur un non-lieu, laissant l'affaire sans réponse. Jacques Audoit, le père de la disparue, meurt de maladie en 2011. Jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants de sa vie, il a pensé à Marie-Hélène, pensé à la retrouver, indique son épouse Annie, qui continue, malgré la fin des recherches officielles, à attendre un signe. Si quelqu'un me disait aujourd'hui comment Marie-Hélène est morte et où elle se trouve, je serais prête à pardonner. J'ai tellement besoin de savoir où elle repose, indiquait-elle au journal Le Parisien, après la clôture de l'instruction. Seul un nouveau témoignage ou un indice matériel pourrait aujourd'hui entraîner la réouverture du dossier Marie-Hélène Audoit. Aucune chance à ce stade de la retrouver en vie. Reste à savoir ce à qui pouvait profiter la disparition de cette jeune femme qui faisait ses premiers pas dans la vie, avait envie de fonder une famille et qui n'avait pas d'ennemis déclarés au point que celui-ci souhaite sa mort. Cette question n'a toujours pas de réponse.